Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Écoutons aujourd'hui la deuxième partie du reportage consacré au maire de Saint-Yne, Monsieur Jean-Pierre Desmoulins. Nous évoquions dans le premier reportage les différents axes de sa campagne. Alors, deuxième axe de votre campagne, Monsieur Desmoulins, on va parler du diagnostic de la sécurité routière et particulièrement de la route qui s'appelle la RD 123, c'est ça ?
Oui, oui, effectivement, vous avez raison de me poser la question. Ça a déclenché des hostilités, si je peux me permettre. C'est que, elle est passagère. Le dernier pointage manuel qu'il y a eu, il remonte à plus de 10 ans. J'ai participé avec les services de l'État, avec la DDE, Direction départementale de l'équipement, et le comptage manuel faisait apparaître 4500 véhicules 24 heures, dont 350 camions. Depuis, le trafic a augmenté. Malheureusement, l'année dernière, vers le mois de juillet-août, on a eu un accident grave. On peut faire tous les aménagements possibles. L'accident, il aurait eu lieu quand même, quel que soit l'aménagement, puisque, en fait, le chauffeur était ivre sous l'emprise des stupéfiants constatés par la gendarmerie. Semblerait-il, d'après la gendarmerie de rapport, le véhicule, il était à 180 km/h. Il a loupé le virage, ils étaient deux passagers. Et il est venu s'écraser dans la maison au pied du parking en face de la rue du Fond-Mautelet où il y avait par le passé un tunnel. Et là, effectivement, heureusement qu'il n'y a pas eu de véhicule en face. Et donc, ça a quand même remué ciel et terre. Et je le comprends. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un aménagement. Il y avait déjà eu un aménagement, mais fait un peu, je dirais, à la va-vite, avec un passage surbaissé, pas surélevé, mais surbaissé. Mais quand le département, parce que c'est la propriété du département, faut pas l'oublier, donc c'est eux qui sont la maîtrise, c'est eux qui en sont propriétaires. Et ils m'ont dit, monsieur le maire, s'il y a un accident, vous en porterez la responsabilité. Mais bon, cet endroit a été refait, puisque le tapis avait été remis à sa forme. Sur cette partie-là, au moins, la partie surbaissée avait été supprimée. L'accident n'a pas été en cause avec l'aspect de la route, mais plutôt avec le non-respect du conducteur. Mais toujours est-il, on en a parlé et du coup, on s'est dit, on va quand même essayer de trouver un aménagement. Mais pour ce faire, il faut un partenariat avec les services de l'État, le service du département. Et nous avons cette fois la chance de nous trouver maintenant dans l'agglomération de la région de Compiègne, où on a des techniciens habilités à mener ces études. Parce qu'en fait, pour réaliser quoi que ce soit, il faut une étude complète de la traversée. Alors on a lancé l'opération. Je me suis rapproché auprès de ma collègue, Madame Fusée, maire de Saint-Va, qui elle avait déjà l'étude de ce qu'elle a fait pour le virage de Saint-Va, où il y a eu un abri de bus de craie et des ralentisseurs. Mais il faut un impact de comptage de véhicules, de nombre de véhicules, le passage, les poids lourds, enfin toute une panoplie d'études que nous avons commandées et qui devraient être restituées, on espère, dans les mois qui viennent. Mais bon, avec la crise sanitaire, tout a été un peu suspendu. Mais là, effectivement, il y a une étude comment on pourrait aménager notre traversée pour la rendre plus sécuritaire, on va dire.
Parce que c'est la rue, on rappelle aux auditeurs, qui relie Verberie, Béthisy, etc.
Oui, effectivement, c'est la rue qui désenclave la vallée de l'Automne, actuellement. Mais bon, avec le bon espoir, un jour, peut-être, nous verrons la déviation qui nous fait tant défaut et qui éviterait le passage d'autant de camions, surtout les céréaliers au moment des campagnes de betteraves ou de céréales quelconques. Mais enfin, il y a un gros trafic quand même.
Alors, le troisième axe de votre campagne était une zone de construction, précisément au Clos des Prêtres. Vous pouvez en dire un petit peu plus et le situer aux auditeurs ?
Alors oui, effectivement, le Clos des Prêtres, c'est la zone qui se trouve... l'ancienne emprise, en fait, de la voie SNCF, qui après est devenue au département, puis rétrocédée à la commune, où nous avons, à travers le plan local d'urbanisme habitation, PLUIH, que nous avons élaboré en collaboration avec l'ARC, les 22 communes. Donc ce Clos du Prêtre permettrait de refaire un peu de pavillonnaire, pas forcément du locatif, une mixité avec de l'accès à la propriété, qui permettrait aussi d'étoffer un petit peu l'accès aux écoles pour pouvoir éviter des fermetures de classes. Et effectivement, c'est quelque chose où on travaillera dessus, en parallèle avec les dossiers que nous venons d'évoquer, pour refaire un petit peu d'accueil de population. Progressif, modérément.
L'oreille dans le coin.
Alors, le quatrième axe de votre campagne et pendant votre mandat, vous allez insister, on va dire, sur l'assistance, ou du moins privilégier l'assistance aux personnes âgées, mais aussi les personnes en difficulté.
Oui, effectivement. J'ai une adjointe qui s'est un peu mobilisée, un peu beaucoup, puisqu'elle s'occupait beaucoup des affaires sociales, la première adjointe, Madame Jeanne Copigny, qui a axé son mandat sur l'aide sociale. Elle a repris l'épicerie sociale, solidaire, l'Epsoval. Elle est stationnée à Glaignes. Mais en fait, son siège social est à la mairie de Saint-Yne. Les locaux sont à Glaignes parce qu'on n'en trouve pas de locaux suffisants pour pouvoir accueillir toute la matière première, des premières nécessités qu'elle donne ou qu'elle vend à un prix très modéré aux personnes en difficulté, en collaboration avec les services sociaux. Et effectivement, on a mis des accents sur les personnes vulnérables, personnes âgées, ne serait-ce que pendant la période de confinement. Pour citer l'exemple le plus proche de nous, nous étions les adjoints et moi-même, on s'était mis notre fichier pour pouvoir appeler régulièrement, une fois par semaine, les personnes qui ne pouvaient pas faire leurs courses, vulnérables quel que soit leur âge, pas de moyen de locomotion, c'est ce que nous avons fait, et nous avons aussi mené avant la période de confinement, des démarches auprès de ces personnes vulnérables, personnes âgées, pour leur rendre visite et puis les appeler régulièrement pour justement faire face à leurs besoins éventuels. Et puis alors l'accent qu'on peut dire aussi, c'est comme vous parliez de cette salle intercommunale qui nous sera bien utile parce que ce sera un endroit où les températures avec la climatisation permettra d'avoir des températures acceptables tant l'hiver qu'en été, pour les chauffages. Et ces personnes qui sont bien souvent seules, démunies, nous avons le souci de les protéger. Et dans des cas de forte chaleur ou autres besoins, nous consacrerions une partie de cette salle pour les accueillir en semaine.
Ces personnes âgées dites en difficulté sociale, elles représentent une part importante dans la population de Saint-Yne ?
Non, c'est pas une grosse part, mais on a quand même beaucoup de veuves. En pourcentage, c'est peut-être 6-7% à peu près.
Et les personnes dites en difficulté sociale ?
C'est assez difficile à qualifier, dans la mesure où ils sont déjà des aides sur différents partenaires, départements. Et on a du mal à cibler vraiment. On essaie au mieux, mais c'est compliqué d'aller au bout du bout.
Vous écoutez actuellement l'interview du maire de Saint-Yne, Monsieur Jean-Pierre Desmoulins. Alors, dernier thème, Monsieur Desmoulins, dans cette interview, on va évoquer la suspicion d'une pollution présente dans votre village. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est récent. On a constaté des mauvaises odeurs dans la commune, un rejet d'eau colorée et en même temps, peut-être il y a un lien de cause à effet, aussi une recrudescence du nombre de cancers dans le village toujours.
Oui, effectivement, récemment, FR3 est venu faire un nouveau reportage sur cette ex-décharge Néry Saint-Yne qui se trouve juste au bas de la rue de Vaucelles. Et là, effectivement, chacun peut se rendre compte que nous avons des émergences, des rejets d'eau colorée qui sont liés aux fuites de la décharge, tout au moins pour tout ce qui a été enseveli à l'air libre et qui s'écoule progressivement, je dirais, au fil de l'eau. Et donc, il y a des études qui sont suivies régulièrement avec une réunion avec le monsieur sous-préfet. Cette réunion a lieu à la mairie de Saint-Yne chaque année, avec un suivi des services de l'État, services de l'ADEME, des piézomètres qui sont installés dans la périphérie, jusqu'à Verberie, puisque les couches d'argile se dirigent est-ouest, et donc ont plutôt tendance à polluer vers l'Oise que la rivière Automne. Ça paraît paradoxal, mais c'est les couches d'argile souterraines qui dirigent les effluents vers Verberie. Alors, c'est quand même surveillé de près par les services de l'ARS, par les services de l'État, sachant qu'il y a une partie des captages de Verberie où l'eau est puisée dans la rivière l'Oise. Et donc, il y a un suivi régulier. Il semblerait que ce qui va apparaître maintenant, ça s'est plutôt amélioré. On en est ravis. Il y a un peu moins d'honneur, mais tout ça, c'est lié un petit peu avec la hauteur du plafond, selon les périodes de brouillard, selon les périodes de l'année. Donc, mais dans l'ensemble, il y a un petit mieux. Sauf qu'il y a encore de rejets, et on les voit, ces rejets, puisque impossible de les colmater. Et bien souvent, la route, elle ressort avec des immersions sur des flaques d'eau.
C'est ça.
Et donc, ça, c'est de l'eau polluée de l'ex-décharge.
Oui, parce que cette décharge, à l'époque, c'était vraiment une carrière à ciel ouvert. Hein, et elle ensevelit, j'ai lu, près de 20 000 tonnes de produits toxiques.
Exactement. Alors, tout ce qui était solide a été reconditionné, mais ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, reconditionné tout ce qui était plus solide en surface, reconditionné dans des fûts hermétiques et qui ont été envoyés dans les mines de sel en Allemagne. D'accord. Il y a eu 5 000 fûts de cette nature qui ont été renvoyés en Allemagne. Alors après, dans l'inconvénient, qu'est-ce que tout ce qui a été mis, enterré et enclavé dans la décharge à ciel ouvert, déversé directement les camions citernes, et puis aussi des bidons qui ont été ensevelis aussi, puisque la carrière, elle faisait de hauteur du plateau de Néry, elle faisait 45 mètres de profondeur, ce qui fait qu'il y a eu au même des quantités conséquentes de fûts enfouis et qui se perforent au fil de temps. Et c'est pour ça que les techniciens, les spécialistes, les professeurs n'ont jamais souhaité pouvoir aller piocher dedans parce qu'il y avait des risques d'explosion entre les matières mélangées.
Donc en fait, la dépollution du sol, elle n'a jamais eu lieu en fait.
Non, c'est vrai. Ce qui s'est fait, c'est qu'il y a eu une station de retraitement que certains ont pu voir. Elle a fonctionné, je crois, pendant 2 ans. Elle était en location et il y a eu ce traitement qui a été fait. Mais en réalité, la carrière parallèle, comme vous le dites, et vous avez raison de le souligner, elle n'a jamais été dépolluée.
Est-il vrai qu'il y a eu des dégagements de gaz cancérigènes ?
C'est-à-dire que, comme je vous disais, Yann, c'est que chaque année, il y a des intervenants qui viennent faire la commission locale d'information et de sécurité, qu'on appelle la CLIS, qui a été transformée avec une autre appellation, mais c'est la même chose, présidée par le sous-préfet, et il y a tous les acteurs autour de la table. Ça se passe dans la même salle que nous sommes ici, salle du conseil, peut-être une cinquantaine de personnes de tout horizon, les associations de défense, les services de l'État, les services de l'environnement, et puis aussi des riverains, c'est important. Monsieur le sous-préfet est à l'écoute de tous et de toutes. Et en réalité, des questions se sont posées sur une recrudescence de cancers. Alors, est-ce cause à effet, des cancers, il y en a partout ? Effectivement, il y en a partout. Mais il y avait eu vraiment une poussée certainement plus importante à un moment donné, un pic, si on peut dire, si on peut l'exprimer de cette manière, justement où reste mon adjoint rue du Fond-Bautier.
En fin de village, c'est ça ?
Et en fin de village, des questions se sont posées. Est-ce cause à effet ? Est-ce lié ? L'ARS se veut rassurante, on nous dit non, c'est les faits, circonstances qui ont fait. C'est vrai, ça a été évoqué. Pourquoi une recrudescence d'autant de cancers dans ce secteur ?
Monsieur Desmoulins, c'est agréable de passer du temps ensemble pour évoquer vos différents projets et puis le passé et aussi le futur. Peut-être un message pour terminer l'interview aux habitants de Saint-Yne, les Saint-Ynois et les Saint-Ynoises, et plus globalement peut-être aux auditeurs de Radio Valois-Mulcien.
Bien sûr, pour mes habitants de Saint-Yne et les auditeurs de Radio Valois-Mulcien, je leur souhaite les meilleures choses possibles. Que cette crise du Covid-19 puisse s'estomper dans les meilleures façons, qu'ils prennent bien soin d'eux, de leur famille, et d'être restés prudents parce que on est encore situé en zone rouge et Dieu sait que dans le Valois-Mulcien, je crois qu'on a été les premiers à être touchés et je ne souhaite qu'une chose, c'est que on souhaite que cette période puisse s'estomper le plus vite possible. Mais malheureusement, les signes ne sont pas tous ouverts dans l'immédiat. En tous les cas, je leur souhaite une très bonne santé à toutes et à tous.
Nous étions donc avec Jean-Pierre Desmoulins, le maire de Saint-Yne. Merci de votre écoute. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.